bon, on parle de rap, là, un peu d'histoire du rap. Le truc cliché, qui j'espère vous arrivera jamais, c'est le côté, c'était mieux avant que le rap, c'était mieux avant, quoi. Et il n'y a pas longtemps, j'ai entendu quelqu'un dire un truc qui m'a fait marrer. C'était que le rap, en fait, c'était pas mieux avant, mais que c'était du vrai rap.
le truc de avant, c'était du vrai rap, ou ouais. Les gens qui sont un peu détenteurs, du coup, de l'autocollant vrai rap au faux rap, machin.
Les vrais, quoi.
Je t'avoue que nous, on en parle beaucoup, tu vois.
Ouais, voilà. Ce qui est cool, c'est que je pense que, voilà, il y a eu cette question-là qui a pu se poser à un moment et tout. Maintenant, on se rend compte, écoute, le peura, c'est un outil. En fait, c'est un outil. Qui est-ce qui est détenteur de ce qui est du vrai rap ou quoi? T'auras beau cracher tout ce que tu veux, t'auras beau décider où est-ce que toi tu places ta ligne, le fait est que les rappeurs sur qui tu craches seront écoutés, vont transférer un message, vont être politiques d'une manière ou d'une autre, seront produits. Enfin, donc tu peux, je m'adresse aux gens qui sont encore à pas vouloir lâcher là-dessus. Mais si toi tu veux écouter du rap vieux, va écouter du rap vieux, il y a pas de souci, tu vois. Après, de là lui coller le terme automatiquement vrai. Ou non, est-ce que c'est toi qui es détenteur de ça? Je suis pas sûre, tu vois. Ouais. Puis c'est évolutif comme absolument tout, comme la langue française, n'en déplaise aux vieux faf, et bah, c'est pareil pour le peur.
Les musiques les plus subversives ont eu, enfin, pour nous c'est un non-sujet dans le sens où, comme dit Green, déjà tu iras pas à l'encontre de ce qui se passe, enfin ça se passe en fait, de fait ça se passe, donc voilà. Moi ça me fait un peu rire parce qu'il y a le truc aussi de dire genre le rap est une musique de jeunes et avant il y avait du vrai rap. Bon les gars, ça a 50 ans quand même. Va peut-être falloir lâcher un peu du lest et laisser justement, c'est la volonté aussi de ces cultures là en fait, c'est des gens à la base, c'est des mecs qui venaient de nowhere mais qui voulaient gagner des thunes, qui voulaient être écoutés, qui voulaient remplir des stades, hein. L'ambition du rap, ça a toujours été ça. Force est de constater qu'ils ont réussi aujourd'hui, force est de constater que n'importe quelle culture se produit, enfin qui marque une génération, découle sur d'autres générations et est récupérée par d'autres générations, donc elle évolue, elle mute. Pourquoi ne pas se réjouir que enfin le rap soit la musique la plus écoutée en fait, pour tous les gens qui ont galéré à produire leur musique et à se produire sur scène et à être pris au sérieux par des majors, etc. Pourquoi juste pas accepter ça? Il y a tellement, en plus, comme disait Green tout à l'heure, de types de rap. Si t'as envie d'écouter du boom bap, il y en a. Si t'as envie d'écouter du rap vraiment lyrical, il y en a. Kerry James a encore produit des tracks là. Si t'as envie d'écouter, voilà, si t'as envie d'écouter de l'autotuné parce que ça te fait kiffer, il y en a. Si t'as, enfin, nous on est un peu déjà pour la paix des peuples et puis aussi pour que les gens qui font puissent faire. Faut laisser juste les gens s'exprimer et faire dans l'art et surtout dans le rap, quoi. Après nous, oui, on a été confrontés déjà. On a déjà été confrontés à ça, à nous dire ah mais il faudrait du scratch, faudrait faire comme ça parce que c'est plus attenant du vrai rap. Bah, écoute, on fait ce qu'on fait.
On va faire ce qu'on va faire et puis ouais, voilà. Ouais, je pense qu'il y a un côté où déjà faut venir à terme avec le fait qu'on va pas demander la permission pour faire et qu'on va continuer à faire. Après, l'histoire de légitimité, il y a forcément de toute manière une part d'ego. Tu sais, après on est des êtres humains, normal. Qui se demande syndrome de l'imposteur et compagnie. Ouais, forcément, je pense que n'importe quel artiste passe par là un moment. Ça fait même partie du processus. Maintenant, le truc, voilà, je pense que c'est ça. C'est qu'en fait, on a fait un deuil avec le fait qu'on va pas demander la permission. En fait, on va faire. On va faire et puis ça parlera. Ce que ça donnera parlera de soi-même, en fait. Voilà.
À partir du moment où t'es exposé, t'es soumis à la critique, quelle qu'elle soit, via les réseaux, etc. Comme dit Green, on a un ego, hein, personne n'est insensible à ça, peut-être à part Booba, mais personne sinon normalement constitué. Et voilà, la question de la légitimité, elle se pose vachement via le jugement extérieur, que ce soit de nos pairs, que ce soit du public, que ce soit de détracteurs. La question, c'est qu'est-ce que tu décides d'en faire. Et nous, on a décidé de prendre ce qui était à prendre, parce que, bien évidemment, là-dedans, il y a à boire et à manger, et parfois, il y a des choses constructives. Donc, on entend, en fait, ce qui peut se dire autour, mais notre moteur, il n'est pas là. Effectivement, on fera tant qu'il y a de l'énergie et de l'envie, on fera. Le jour où il n'y en aura plus, on fera autrement. Mais ouais, la légitimité. Après, moi, je me la suis posée par contre sur la scène, c'est-à-dire que ça va au-delà du projet. C'est-à-dire, parce qu'en fait, la scène étant le climax du truc, quoi. C'est là où t'es vu, c'est là où tu te donnes à voir aussi. Moi, la question, elle s'est posée. En fait, elle s'est aussi très vite plus posée. Je crois que la première scène, vraiment, j'avais l'impression d'avoir rien à foutre là. Et en fait, ben, c'est pareil, c'est la même dynamique. C'est en fait, ben, on a décidé de faire, on y va en fait.
Une fois que t'y es, en fait, ouais, t'as la place que tu te donnes.
Ouais,
et puis,
ouais, les choses, elles sont ce que t'en fais, quoi, à cette échelle-là, du moins.
Le fait d'être des personnes sexisées, justement, je pense que c'est quelque chose qui vous suit en permanence. Vous avez été construite à travers le regard de l'autre. Donc, au bout d'un moment, peut-être aussi arriver à se défaire.
Oui, c'est sûr. Je pense que de toute manière, il y a une part de survie dans ce que tu dis. Je comprends, bien sûr, il y a une part de survie. On a été obligés, je pense, de facto, de dealer beaucoup plus tôt avec une forme de regard qui est beaucoup plus... qui nous veut peut-être moins de bien. Enfin, ouais, on sait que grandir, éduquer en tant que femme ou fille, en général, t'as le... Ouais, tu passes au scanner d'une manière différente, et de facto, t'as un rapport à l'attention qu'on porte sur toi qui est différent. Oui, ça fait partie de nous. Donc forcément, ça doit avoir. C'est sûr, ça a un impact sur la manière dont on reçoit, dont on présente et tout, mais... C'est tellement ancré en nous qu'à la fin, je sais même pas forcément où est-ce que je mettrais le... Tu sais, est-ce que j'arriverai à disséquer, en fait. C'est comme ça. Je pense que ça fait partie du truc. Le truc de légitimité, oui, peut-être au tout début. Allez, vas-y, dans les premières années où j'ai fait du rap, quand j'étais dans une plus petite ville où vraiment, moi, j'avais 16 ans et j'étais entourée de mecs plus âgés qui faisaient du peura et tout. Il y avait ce truc un peu chiant au début, le truc qui était assez classique, mais c'était il y a 10 ans en fait. Ah. Alors oui, il y avait le truc classique où c'est ça, tu vois, je lâche un 16, où je fais du rap, et on me dit « Ouais, c'est vachement bien, tu voudrais pas chanter sur mes refrains ?» Il y avait ça au début, tu vois, le truc classique, t'es en mode « Mais alors, comment dire, ça n'aura pas lieu ?» Et même au début, du coup, j'étais là en mode « du coup, ouais, moi, je veux pas chanter sur les refrains. Maintenant, j'adore chanter sur les refrains des autres, tu vois. Ouais, c'est bon, je fais mon truc et tout. »
Tu décides,
il y a eu cette idée, il y a eu, bien sûr, au début, ce truc un peu, tu vois, le truc de légitimité. Est-ce que être une meuf, machin, caca. Maintenant, les 10 dernières années, on va pas se mentir, ça a gavé, évolué. Les questions se posent plus de la même manière et j'en suis bien contente. Voilà.
Ouais, même nous, on n'a pas envie. Après, on est ramené, tu vois, c'est ce que je te disais, notamment le concert, c'est toujours... un très bon observatoire, parce que du coup t'es en contact avec les gens qui t'ont écouté direct, et t'es en contact direct, c'est immédiat, et évidemment qu'on a des retours parfois lourds, en fait, disons-le, enfin, c'est pesant et tout. En même temps, c'est pareil, tu vois, on n'a pas envie de s'arrêter à ça. On a tellement été éduqués là-dedans, et on a aussi tellement fait de chemin par rapport à ça, nous, nous-mêmes en tant qu'individus, et on le fait ensemble aussi avec Green, on en parle beaucoup, qu'on n'a pas envie de s'arrêter à ça. On ne va pas donner plus de valeur à ça que ça n'en a, en fait. Ça veut pas dire que ça existe pas, ça veut juste dire qu'on décide de dealer autrement avec ça. Et en fait, c'est hyper cool que ça passe par le projet, parce qu'en fait, ça nous aide à titre, je pense, intime presque. Avoir cette force-là dans le professionnel nous aide dans le perso en fait. Et après, la musique, quoi qu'on en dise, les milieux artistiques échappent pas à la société, en fait. Et moi, je l'ai vu autrement dans ce milieu-là, de par mon taf. Ça échappe, on n'échappera pas à ça. Ouais, on est deux petites meufs et... Ben oui, quand tu ouvres ta gueule, t'es une chienne de garde. Enfin, on n'échappera pas à ça. Donc après, c'est qu'est-ce que tu décides, comment tu décides de dealer avec ça. Nous, on n'a pas envie de donner trop d'importance. On en fait presque un non-sujet entre nous, tu vois. Pas un tabou, juste, c'est pas un sujet, tu vois, parce qu'on n'a pas envie de donner de l'énergie à ça.
Faite pour ce monde, comme beaucoup avant toi, te connais pas les règles et tu les devines mal. T'es monté à l'envers, t'as appris au final. On trouve pas la notice dans un demi-gramme. T'as fait confiance à tort et fait les choses de travers. Passé le cap des 2-3 verres et enversé encore. Elle a tissé, fait oublier que t'es chelou à mort. T'es une brebis comme les lois d'or. La petite peu est mature pour son âge, et n'auront pas de pitié pour son âme. La petite peu fait genre, elle a pas mal. Elle soigne pas ses blessures, au final les aggrave. La gamine du père en un spectrum, c'est d'apprendre à se faire respecter. Laquelle s'est trompée dans la méthode. Entre deux n'a pas appris à s'aimer.
Je suis
devient souvent ce qu'on nous dit qu'on est. Les crazy bitches ont des backstories riches, facile à consommer dans phase onirique, facile à faire tomber du haut de leur édifice. Pour mes bitches à usage unique, Harley Quinn de Wish, mauvais bénéfice risque. Bébé des baddies font raquer des gamics, ça rend sexy d'avoir des issues avec daddy. Qu'on fait couler leur sang juste pour savoir si le feu dans leur ventre pouvait sortir. Qu'on voulu s'évader, qu'on fait ça mal, qu'on l'impression d'être Keblo en orbite. Toutes les filles de joie que ça fait pleurer, celles qu'une main sur la peau peut faire pleurer. Quand ai-je là les bouteilles à la dérive, elles m'en cherchent à réponse dans un rêve.
Texte, il y a aussi sûrement une notion un peu cathartique, puisque vous nommez aussi ces phases par lesquelles vous êtes passé. Là, j'ai noté quelques punchlines, justement, comme vous dites que vous n'êtes pas faite pour ce monde.
Oui, oui, ou bah, et puis là, pour le coup, le son auquel tu fais ref, moi, je l'ai écrite vraiment, parce que oui, en fait, c'est ça, c'est autant, c'est un non-sujet, autant, du coup, là, je fais vraiment... là, je parle vraiment d'un sujet très spécifique dans ce morceau-là, où c'est le vécu de, pour le coup... de femme, ou du moins personne qui a été éduquée en tant que telle, et autiste, en fait. Donc le double truc, justement, de rapport, qui est lors de mon expérience, c'est, mais que j'ai vu partagé par plein d'autres personnes, en fait, autour de WAM, et ce truc où une espèce de double peine, un peu, qui fait que t'es dans une position où va falloir... où va falloir faire face à des gens qui vont vouloir prendre avantage de toi d'une manière ou d'une autre. Après, c'est ma réalité, tu vois. Il y a un côté où, du coup, pour moi, c'était très exutoire de parler de ça, de faire ce morceau-là, d'en parler avec des termes qui sont un peu crus, un peu durs, parce que de ne pas rendre ça spécialement esthétique, ni trop larmoyant, mais un peu brut, en mode, c'est ça, de facto, c'est ça, tu vois. Et puis, il y a une vulnérabilité qui vient avec le fait d'être neuroatypique, c'est comme ça, tu vois. Et comment est-ce qu'on se rendurcit derrière ça, mais comment est-ce qu'on en parle aussi, ce que j'ai essayé de faire avec ce son. Donc en soi, bien sûr, du coup, ça va parler de sexisme, ça va parler d'intersectionnalité, ça va parler de handicap, blablabla. Mais en soi, je crois pas que t'entendes une seule fois les mots sexisme, handicap, intersectionnalité, ou même autiste, enfin, tu vois, dans le texte, parce que j'ai envie que l'expérience, elle parle d'elle-même plus que de faire de la théorie sociologique dessus, en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis.
On est sur la sensation. C'est vrai que, voilà, moi, j'ai effectivement perçu cette vulnérabilité, quoi, exploiter la prédation masculine aussi, qui est très incarnée aussi. Je dis injustification, violence sexuelle aussi. Et puis... moi, j'ai perçu un truc aussi un peu d'auto-sabotage parfois et de répétition des traumas aussi.
Un truc qui est très fréquent chez les meufs qui ont eu des VSS, sur les personnes qui ont eu des VSS en général.
Et il y a une punchline aussi qui m'a questionné. Tu dis, vous êtes plus belle que vous pensez, un truc comme ça.
J'ai pas la gueule de mes idées,
ouais,
je suis bien plus jolie qu'elle.
Ouais.
J'ferme mes yeux, je vois des images où la violence prolifère. Hey. Gaza, Goma et des visions horrifiques. Pendant ce temps, ma fils de bourge est pas trop branché politique.
Alors ça, je suis bien contente qu'on en parle. Tiens, je la trouve rigolote celle-là. Parce que du coup, souvent les faf, ils disent, elle a bien la gueule de ses idées, il a bien la gueule de ses idées, pour se moquer de personnes de gauche qui vont avoir des dégaines un peu alternatives, justement, et tout. Et le truc de dire, mon frérot, tu sais pas ce qui se passe dans ma tête, c'est ignoble. C'est ignoble, c'est violent, c'est dégueulasse. Moi, je suis bonne en comparaison, tu vois, t'inquiète.
Même, il y a l'idée de clasher aussi le fait qu'on soit toujours amené à nos physiques. Premier Doug, il y a le truc de... on est toujours ramené au marché à la bonne meuf, quoi. Donc, du coup, on aurait le droit de penser en fonction de notre grille, de là où on coche la case dans la grille de la bonne meuf, quoi.
Ouais, et puis, on arrive dans une époque où tu peux avoir des meufs qui disent « Ouais, je me trouve bonne.
Ouais.
Il y a quoi ? Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ?» Voilà. C'est important de le dire. Dites régulièrement que vous vous trouvez bonne. Dites-le. Tu vois, genre, faites, c'est bien. Belle. Comme...
Bref. Mais tout le monde, hein.
Barabalu.
Tout le monde est bonne.
Dites-vous des trucs gentils à vous-même, là, c'est important.
Il y a plein de manières d'être beau, belle, de se sentir bien dans sa peau, valoriser aussi autre chose que le physique. Et puis, il y a des gens qui ont plein de qualités autres que ça, quoi. Et je pense que c'est aussi l'idée de ramener ce truc-là, en fait. Enfin, moi, je sais que je l'aperçois aussi dans l'idée qu'une belle meuf, elle peut pas être intelligente. Ça, c'est un truc qu'on nous inculque vachement quand on est petite, je trouve, par plein de moyens dans la société. Et l'idée de dire, ouais, j'ai pas la gueule de mes idées, je suis bien plus jolie qu'elle, ça serait aussi...
Oui, c'est en mode, c'est complexe, ouais. C'est complexe dans ma tête, c'est complexe, c'est pas forcément beau et tout, nanana, ouais. Mais je suis canon. Les deux
ouais,
existent.
Ouais, les deux existent, en fait, voilà. Les deux...
Et qu'est-ce que tu vas faire?
Ouais, voilà, bien sûr.
Toujours, la question est la même, la question est toujours la même, quoi. Toujours. Qu'est-ce que tu vas faire?
Et qu'est-ce que tu veux faire?
La même, rien. R. Donc y'a plus de temps à perdre en tout, la tête haute, quand le dos est foutu, y'a plus la place pour l'ose, la vie de merde, c'est magnifique quand tu t'écoutes.
Autour de la violence, où tu dis c'est plus facile ici-bas d'obtenir la peur que le respect.
Non, mais c'est un constat. C'est un constat, c'est que voilà, je pense qu'après, justement, notamment quand t'es petite. J'allais dire petite meuf, ou que tu corresponds pas, du moins, aux figures dans un truc. Dans une société où il y a vachement ce bail de domination, tu vois, on fonctionne entre nous par domination, différentes, plusieurs formes de domination, comme il y a quand même ce truc d'ascendant qui est nécessaire à avoir. Et du coup, tu te rends assez rapidement compte que quand tu veux, quand t'es face à un groupe d'oppresseurs, le bail en général de les convaincre de te considérer comme un être humain, ça va pas souvent marcher, tu vois. Tu peux dire, non mais arrêtez les gars, vous vous rendez compte, enfin, c'est hyper déshumanisant ce que vous faites, en fait, pour moi ça me blesse vraiment. On va dire d'aller niquer ta mère, en fait, voilà, ça ne va pas marcher, spoiler alert. Quand tu, du moins, quand tu vois, quand tu t'adresses vraiment à, voilà, après t'as certaines personnes qui vont revoir leur point de vue, bien sûr faut communiquer la rava, là on parle quand tu t'adresses vraiment à des oppresseurs actifs, tu vois. Gagner leur respect, aller supplier pour qu'ils te considèrent comme un être humain, ça n'aura pas lieu. Par contre, tu peux leur faire peur. Là, à la limite, ils vont fermer leur gueule, te laisser tranquille, peut-être se rétracter. C'est une observation. Je pense que c'est une observation qui a été faite factuellement depuis les cours de récré, jusqu'à la rue tard le soir. Genre,
Le monde est drivé comme ça.
Le monde marche comme ça, tu vois. Et c'est un constat.
Non, mais oui, le monde tourne comme ça de manière globale et à plein d'échelles, à plein de niveaux, quoi. Donc, et nous, on l'expérimente via notre prisme, notamment en tant que meuf, mais je pense qu'il y a plein de gens qui seraient d'accord avec ça à différentes strates de sujets, quoi.
Est-ce que, je sais pas, certaines paroles peuvent peut-être vous peser? Est-ce que vous avez ressenti aussi cette idée de responsabilité particulière, voire collective, à porter certains messages, puisque on est tous situés, quoi. Donc vous allez incarner quelque chose à un moment. Ça revient aussi à ces questions de légitimité. Vous vous situez où par rapport déjà à cette idée de responsabilité, quoi, à prendre la parole et, tu vois, et à porter une parole?
Je pense que ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, où au final, je pense que ce qui est politique, c'est de parler de nos vécus, déjà de les faire exister, d'en parler, de faire en sorte que des personnes qui les partagent se sentent vues et que des personnes qui ne les partagent pas voient. Déjà, pour moi, je trouve que c'est un acte politique là-dedans. Après, le truc, c'est que moi, je suis pas journaliste. C'est un peu particulier le fait d'écrire des textes, par exemple, extrêmement politiques. T'as des gens qui vont être excellents à ça, à écrire vraiment des textes avec les bons termes, avec la bonne terminologie, etc. Et moi, je vais avoir l'impression de m'essouffler un peu là-dessus. C'est pas là où j'excelle. Par contre, de facto, j'encourage fortement à l'action directe, tu vois. Genre, à tous les niveaux... À tous les niveaux, il y a des tas de manières d'être politique. Je sais que perso, dans mes textes, par le biais artistique et musical, j'ai pas vocation d'écrire des manifestes ou des slogans hyper orientés, militantisme, machin, nanana. Parce que je suis pas très bonne à ça, en fait, tu sais. Donc je préfère parler de moi et que le fait de parler de moi et de mes réalités en soi soit politique. Forcément, il y a aussi des sujets qui me touchent, desquels je vais avoir envie de parler, etc., qui sont pas forcément des trucs que j'expérimente directement en tant que personne, mais dont je veux parler parce que j'y assiste. Mais j'essaye tant bien que mal de pas forcément être dans la truc, déjà de pas mettre dans une posture moralisatrice, en fait, parce que de facto je vais être décevante à un moment, tu sais, mon gars, parce que voilà. Donc je préfère parler en mon nom, par contre être clair sur le fait que c'est important. Il y a plein de manières d'être politique dans son quotidien. Ça passe par certains, par des prises de parole, prises de position, de l'action directe, etc. Faut prendre position le plus possible, ça, tu vois, individuellement et artistiquement, j'encourage tout le monde à faire ça, tu sais. Et puis après, de facto, je suis pas là pour faire un manifeste via mon rap, en fait. Moi, du moins, c'est pas ce qui me réussit. Je balance ce que je suis, et ça donne ce que ça donne, et c'est politique parce que, voilà, enfin, ce que je viens de dire.
Ouais, même musicalement, tu vois, les choix de... Enfin, comme dit Green, il y a plein de manières d'être politique. Le collectif, c'est déjà la somme des individus, tu vois, c'est l'idée d'une addition de vécu, de personnalité. Donc si déjà on arrive à parler peut-être aux gens qui normalement sont pas vus, normalement sont pas trop considérés, enfin nous on a souvent la figure du cassos, truc un peu lambda, les gens un peu moyens, les gens
déjà marginaux, si on... ouais. marginaux quelle que soit la
oui quelle que soit
maintenus à la marge
D'une manière ou d'une autre, et déjà si on arrive à parler à ces gens là et puis en fait il y a aussi le truc de parler aux gens qui ne sont pas concernés, enfin tout à l'heure on en parlait et je disais de facto un groupe comme la Mafia Quinfri, il s'adressait pas à nous. Enfin, en fait, on est des petites meufs non racisées, enfin blanches. En fait, la Mafia Quinfri s'adressait pas à nous. Comment ça se fait que ça nous a touchés ? Et bah, en fait, là, c'est un peu l'idée de process inverse. C'est un peu l'idée que toucher des gens qui de base seraient pas dessinés dans notre musique, c'est aussi politique, parce que c'est aussi induire une réalité, c'est aussi expliquer une pluralité de ressentis, de vécus. Typiquement, tu vois, sur la question des violences faites aux femmes, pouvoir en parler avec des personnes qui l'ont vécu, pas vécu, qui... Ça, c'est politique. Mmh. C'est notre manière, je pense, à nous d'être politique, et musicalement aussi, aller chercher dans des références musicales qui sont connotées. Je veux dire, amener de la techno, ça veut dire quelque chose. Se réapproprier certains codes du punk, ça veut dire quelque chose. Donc c'est un niveau, on va dire, de politisation. Nous, on prône vachement le collectif et l'action directe.
On parle de rap hybride, donc fait par des gens qui ont une autre culture autre que le rap, tu vois, et donc qui ont amené des thématiques vachement plus personnelles, contre les tabous, peut-être, tu vois.
Les milieux alternatifs, du moins, on l'espère, sont plus avertis sur certains trucs. C'est aussi leur fonctionnement et leur légitimité à peut-être être plus alertés sur certains aspects, quoi.
Ouais, parce que ça ramène l'idée d'intersectionnalité. Justement, le fait qu'il y ait une hybridité dans la musique en général, t'as des gens du coup qui ont une hybridité aussi, comme tu disais, dans leur vécu. Et à partir de là, les personnes les mieux renseignées sur les sujets qui vont être tabous d'un côté mais pas de l'autre, c'est les gens qui se retrouvent en plein milieu des tabous parce que vas-y, ils sont tous les trucs sur lesquels il y a un point rouge, jamais vraiment chez eux. En général, c'est les gens qui vont pouvoir s'exprimer justement dans les milieux alternaux, quoi. Donc ceci explique cela, je pense.
Oui, mais le rap est vraiment à l'image de la société. Pour le coup, il n'y échappe pas. Can't slip on the racks, push it down, beat up the past. Don't
est-ce que vous auto-censurez? Est-ce que vous avez encore...
Heureusement que oui. Non, je rigole. C'est une blague.
Non, c'est intéressant parce que moi, la notion d'artiste, c'est un truc que je peux remettre en cause. C'est pas très précis pour moi, quoi. Par contre, j'ai l'impression qu'à un moment donné, le fait de dire des choses très personnelles, c'est un espace qui te le permet, tu vois, c'est que ce soit la scène, un texte, tu vois, un fanzine par exemple, tu vois, un zine, ça permet de dire des choses que t'as même du mal, tu vois,
à dire à ton psy, tu vois, le dire là, enfin, bien sûr.
Et ouais, en plus, l'exposer, c'est super étrange. Et je pense vraiment que c'est là où. Enfin, je sais pas ce qui permet ça.
Il y a le personnage qu'on enfile, en fait. C'est ça qui est génial. Ah ouais. C'est que tu vois, il y a un côté drag queen aussi, quand tu fais du rap, quand t'es artiste, n'importe quoi. Enfin, il y a le côté, tu vas enfiler ton personnage. Même s'il est très proche de qui t'es vraiment et tout, il y aura toujours un petit truc différent qui va te permettre d'aller notamment dans la culture de l'ego trip et tout. Ouais. Comment te dire qu'on l'a pas de la même manière dans la vie perso,
dans un texte de rap,
le truc d'arriver et d'être hyper assuré et tout, c'est parce que t'as le personnage qui te permet de faire ça aussi.
Ouais, tu te donnes pas à voir au monde la scène, notamment la scène. Ouais. Genre, tu te donnes pas à voir au monde comme tu le ferais... dans la vie, ça induit ça et c'est un super outil. Après, sur la question du tabou en soi, je pense pas qu'on est tabou. Après, il y a un timing, quoi. Tu peux pas parler. Enfin, je pense qu'il y a des moments, en tout cas. C'est pas une censure, mais en tout cas, il y a des moments pour.
De vie, tu veux dire.
Ouais, et puis juste
des moments
de société, ouais, qui te permettent de parler de ça ou de ça. Et nous, on n'est pas dans le tabou, pas du tout. Mais déjà parce que par nature, on est. Pas comme ça, mais par contre, dans l'idée que le projet est un média, on aime bien se poser la question du timing pour dire ou mettre en avant certaines choses, parce que c'est important, parce que le but, malgré tout, même si on dit ou on présente des choses, on n'est pas dans une course à la choquance. On n'a pas envie de choquer, en fait. Hein. C'est absolument pas un truc qu'on recherche. On n'a pas envie, on se prétend pas du tout sulfureuse ou quoi. On fait juste qu'on fait comme on le fait et c'est le mieux qu'on puisse. Hein. Et oui, subversive. J'ai dit quoi, subversive?
Sulfureuse.
Ouais, sulfureuse aussi. En vrai, ça sulfureuse aussi, parce que c'est une question, genre, notamment chez les meufs. Les meufs qui sont un peu décalées sont sulfureuses, quoi. Enfin, sont dites sulfureuses.
Moi, j'aime bien ça.
C'est pas une revendication, tu vois. On n'est pas en quête de ça. Après, on est quand même consciente qu'il y a un timing et qu'il y a aussi des endroits où on n'a pas envie de blesser. On a envie de dire et d'être ce qu'on est, mais parfois ça induit que on est maladroite ou ça induirait autre chose, quoi, et on n'a pas envie non plus de blesser. Donc il y a un timing, je pense, aux choses.
Il y a un timing, un équilibre à trouver. Ouais. Voilà. Ce que je disais, c'est que voilà, mais j'aime bien aussi éviter, mine de rien, les sujets un peu. Tu vois, où on va se taper. C'est ça qui est compliqué. Dans l'intra-communautaire, que ce soit militant, religieux, etc. Dans l'intracommunautaire, marginalisé du moins, des fois, bien sûr que t'as des choses à dire. T'observes des trucs, t'observes des mécanismes et tout, t'as envie d'en parler. Le problème, c'est que tu sais que dans la période dans laquelle on est, etc., si t'exposes de manière hyper brusque certaines vulnérabilités de ton milieu, comment est-ce que ça va être récupéré, comment est-ce que ça va être... est-ce que j'ai envie de venir, moi, de parler d'un truc... Voilà, donc ça, à la limite, je dirais que moi, j'ai peut-être ce tabou d'écriture de certains trucs où des fois, j'ai dit « Putain, ça, dans le milieu militant, ça me casse les couilles. » Mais vas-y, est-ce que c'est le moment de faire tout un son qui parle de ça pour que ce soit récupéré par des droitards sur TikTok qui fassent du playback dessus? Autant en mourir, en fait. Voilà, donc la notion de timing, la notion de aussi, on peut pas s'en défaire. Qu'est-ce qu'on va générer et dans quel contexte? Pareil, tu vois, genre parler religieusement des trucs qui me saoulent dans la communauté, dans la communauté musulmane, en tant que musulmane, est-ce que c'est le moment de mettre ça, et surtout en tant que musulmane blanche en plus, enfin, tu sais, il y a tout un truc, est-ce que c'est le moment d'aller mettre ça en avant et moi de porter ce drapeau-là? Mais on verra plus tard, éventuellement, tu vois. Question de timing.
L'islamophobie, c'est le front principal, non pas à cause de son intensité, mais à cause de sa centralité stratégique. C'est par l'islamophobie que se justifient aujourd'hui les politiques les plus autoritaires, les plus guerrières, les plus liberticides. C'est elle qui permet la reconduction de la souveraineté coloniale, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et c'est elle qui permet à l'extrême droite de devenir hégémonique. Depuis les années 2000, et plus fortement encore depuis 2015, l'islamophobie est devenue le langage commun du pouvoir et de l'opposition. Elle est le pont entre la droite et l'extrême droite, et certains segments autoproclamés de gauche. Elle est le terrain de convergence entre le sécuritaire, le nationaliste, le néolibéral et l'impérial. Parce que c'est au nom de la lutte contre l'islam qu'on parle de civilisation, de valeurs républicaines, de laïcité. C'est au nom de la peur du musulman qu'on criminalise les quartiers populaires, qu'on ferme des mosquées, qu'on dissout des associations. C'est au nom de l'islamophobie qu'on interdit le voile, que l'on interpelle des enfants et que l'on fait entrer la police à l'université.